Évangile selon Matthieu, chapitre 22e. Et Jésus, répondant, leur parla encore en parabole, disant, « Le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui fit des noces pour son fils, et envoya ses esclaves pour convier ceux qui étaient invités aux noces. Et ils ne voulurent pas venir. » Il envoya encore d'autres esclaves, disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai apprêté mon dîner. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt. Venez aux noces. » Mais eux, n'en ayant pas tenu compte, s'en allèrent, l'un à son champ et un autre à son trafic. Et les autres, s'étant saisis de ses esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Et le roi l'ayant entendu, en fut irrité. Ayant envoyé ses troupes, il fit périr ces meurtriers-là et brûla leur ville. Alors il dit à ses esclaves, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins, et autant de gens que vous trouverez, conviez-les aux noces. » Et ces esclaves-là, étant sortis, s'en allèrent par les chemins et assemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant mauvais que bons. Et la salle des noces fut remplie de gens qui étaient à table. Et le roi étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut là un homme qui n'était pas vêtu d'une robe de noces, et il lui dit, « Ami, comment es-tu entré ici sans avoir une robe de noces ?» Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-le pieds et mains, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres de dehors. » Là seront les pleurs et les grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Nous avons donc sous les yeux une nouvelle parabole. Une nouvelle parabole du royaume
des cieux. Jésus répond à ses interlocuteurs en leur disant « Le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui fit des noces pour son fils et il envoya ses esclaves pour convier ceux qui étaient invités aux noces et ils ne voulurent pas venir. » Nous sommes étonnés de voir le contraste existant entre l'appréciation de Dieu au sujet de la personne de son fils et l'appréciation des hommes au sujet de la personne du Seigneur. Les hommes n'ont qu'une pensée, les Juifs en particulier, c'est de mettre à mort le Seigneur. Et en contraste, nous avons dans ce chapitre 22 la pensée de Dieu à l'égard de son Fils. Le royaume des cieux a été fait semblable à un roi. À nouveau, Dieu étant présenté comme un roi, comme au chapitre 18e, un maître de la maison au chapitre 20e, et ici à nouveau un roi. Il est le roi et qui désire faire des noces pour son Fils. Et alors, en l'honneur et à la gloire de son Fils, il désire, Dieu, le roi, il désire que la salle soit remplie. Alors ont lieu diverses invitations, et il envoie ses esclaves pour convier ceux qui étaient invités aux noces, et ils ne voulurent pas venir. De qui s'agit-il dans ce verset? Certainement des enfants d'Israël, des Juifs, qui ont été à moult reprises invités à venir à leur Dieu et à se réjouir en leur Dieu. Mais qu'est-il dit? S'ils ne voulurent pas venir, les Juifs ont méprisé froidement l'invitation de Dieu qui n'avait qu'un désir, de faire d'instituer ce repas des noces et noces pour son fils. Alors, les Juifs n'ont pas voulu venir. Alors, le roi envoie d'autres esclaves, disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai apprêté mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Dans les paroles prononcées, là, par le roi, il est parlé d'un sacrifice. « J'ai apprêté mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » En effet, image du sacrifice suprême de notre Seigneur. Le sacrifice de notre Seigneur ayant été consommé, tout était vraiment prêt. Sur la base d'un tel sacrifice, Dieu pouvait user librement de toute grâce et inviter tout homme à venir participer à un tel repas. Et cette deuxième invitation a trait également aux Juifs. C'est le livre des Actes qui nous montre comment les Juifs ont apprécié une telle invitation. Mais eux, verset 5, n'en ayant pas tenu compte, s'en allèrent l'un à son champ et un autre à son trafic. Et les autres, s'étant saisis de ses esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Comme nous l'avons vu ce matin, les hommes sur la place du marché, occupés à leurs affaires, à leur trafic, et ne s'occupant nullement d'un appel de Dieu. Dieu pouvait bien sortir de son repos pour appeler l'homme à lui. Les hommes sont là, vaquant à leurs affaires, et s'il s'agit des intérêts de Dieu, ils sont là sans rien faire, sur la place du marché. Eh bien là, nous voyons à nouveau ces Juifs s'en allant l'un à son champ, un autre à son trafic, et puis finalement, il y en eut encore qui ont osé se servir de ces esclaves, de les outrager et les tuer. Ainsi, nous avons là le sort qui a été réservé par les Juifs après la mort du Seigneur, après sa résurrection, après la venue du Saint-Esprit sur la terre, tel que le livre des Actes nous le rapporte, où l'on voit des témoins, des serviteurs, témoins de la grâce de Dieu, qui ont été froidement mis à mort à nouveau par ces Juifs, refusant résolument l'invitation qui leur était adressée. Donc une première invitation adressée par Dieu aux Juifs avant la mort de notre Seigneur, avant l'œuvre de la croix. Une deuxième invitation aux Juifs après l'œuvre de la croix accomplie. Ce qui est exprimé par ce sacrifice, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Les Juifs ont refusé à nouveau cette invitation, comme nous le disions, selon l'enseignement du livre des Actes. Alors, le roi, l'ayant entendu, en fut irrité. Ayant envoyé ses troupes, il fit périr ces meurtriers-là et brûla leur ville. Et c'est ce qui est arrivé en l'an 70, quand les armées romaines, sous la conduite de l'empereur Titus, sont arrivées en Palestine, saccager le pays, ont détruit la ville de Jérusalem. C'était vraiment ce jugement annoncé déjà plusieurs fois par le Seigneur lui-même. Le roi, Dieu, a été irrité et sa colère s'est manifestée de cette façon-là. Il fit périr ces meurtriers-là et brûla leur ville. Ce fut là le sort des Juifs au temps de notre Seigneur et au temps de ses serviteurs, les apôtres. Ils ont été littéralement, ils sont tombés sous le coup du juste jugement de Dieu. Il fit périr ces meurtriers-là, il brûla leur ville, ce fut là le sort de la ville de Jérusalem, nous le répétons, en l'année 70. Alors il a dit à ses esclaves, les noces sont prêtes, mais les convives n'en étaient pas dignes, allez donc, et une troisième invitation est faite, et cette fois, il s'agit non plus d'une invitation adressée au peuple juif, mais aux gentils, à toutes les nations jusqu'au bout de la terre. L'évangile de la grâce qui appelle tout homme appartenant à quelque nation que ce soit jusqu'au bout de la terre. Et c'est ce que nous avons depuis le verset 8 à la fin de la parabole. Une invitation, les Juifs ont refusé. Une deuxième invitation, les Juifs ont encore refusé, mis à mort les serviteurs de Dieu. Alors, le roi est irrité, son jugement se manifeste, destruction de Jérusalem en l'an 70. Et la porte est ouverte maintenant aux gentils, aux hommes, à qui que ce soit jusqu'au bout de la terre. Dieu continue dans sa grâce à inviter, et cela en l'honneur et pour la gloire de son Fils bien-aimé.
Dire un mot sur l'affaire des noces, sur le sujet des noces. Tout d'abord, dans le chapitre 21, Les pharisiens et les sacrificateurs ont entendu que le Seigneur prononçait ces paraboles contre eux, les paraboles précédentes. Et de ce chef, le Seigneur engendre, c'est-à-dire commence dans le chapitre 22, une parabole spécialement destinée aux Juifs. Mais les Juifs, déjà, dans le chef des sacrificateurs et des principaux, ont entendu les paraboles précédentes et ont bien saisi qu'il parlait contre eux. Alors, quelles sont ces paraboles? Quels sont ces sujets? On sait que le Seigneur possède trois gloires essentielles. Il est le roi, on trouve cela dans notre introduction, développée d'ailleurs de façon très profitable. Il est le roi, il est le sacrificateur et il est le prophète. Et dans l'Évangile selon Matthieu, Dieu a voulu que son Fils soit présenté sous ces trois gloires à son peuple. Première fois, chapitre 21, le Seigneur est donc vu comme étant le roi. Voici ton roi, c'est à Jérusalem qu'il parle, voici ton roi vient à toi. Première chose, le Seigneur présenté comme le roi. Dieu n'a pas voulu que la gloire de son Fils sous la royauté, sous la forme de la royauté, soit méconnue. Et le contexte est tout à fait selon ce que Zacharie le prophète a dit. La deuxième chose, c'est que le Seigneur est le prophète. Les foules au verset 21 disent « Celui-ci, c'est le prophète qui vient de Jérusalem. » Deuxième gloire du Seigneur. Troisième gloire du Seigneur comme chef sur sa maison, comme le souverain sacrificateur. Il met sa maison en ordre et il dit maintenant, il ne peut plus cacher cet état de choses, plus patienter, pardon, à l'égard de cet état de choses. « Ma maison, c'est une caverne de voleurs. » La maison de son père était devenue une caverne de voleurs. Et c'est le chef de la maison, le souverain sacrificateur, qui met cette maison en ordre et qui la vide de tout ce qui est une offense à Dieu. Comme roi, comme prophète, comme sacrificateur, le Seigneur nous est présenté dans ces versets. Par conséquent, c'est un sujet qui se continue, par conséquent, Israël est vu sur la figure du figuier qui sèche, au verset 19. Vous voyez, c'est un ensemble qui est harmonieux, le figuier séché, plus de fruits sur le figuier en relation avec le fait que le Seigneur se présente à eux, soit comme roi, soit comme prophète, soit comme sacrificateur. On sait que le Seigneur va montrer ses gloires variées demain, mais en tout cas maintenant, il est rejeté et le figuier est devenu sec. Alors, les disciples en sont étonnés. D'un seul coup, en une seule nuit, ce figuier a perdu cette capacité, cette faculté de produire des fruits. Maintenant, la fin de cela, pour faire court, c'est une parabole que le Seigneur enseigne au verset 33. À l'égard de la vigne, toujours Israël, tous les efforts qu'il a fait pour que cette vigne porte du fruit, et le dernier essai, c'est d'envoyer son fils pour recueillir du fruit auprès des vignerons qui devaient très certainement et tout naturellement avoir du respect pour le fils, si même ils avaient été grossiers, ils avaient été violents à l'égard des serviteurs précédents. Et la conséquence nous est montrée, c'est qu'ils l'ont jeté hors de la vigne. Ce fils du maître, ils l'ont jeté hors de la vigne, ils l'ont tué et ils ont dit que l'héritage soit à nous. Sauf que la pierre, maintenant, le Seigneur va citer, la pierre que ceux qui ont rejetée est devenue la maîtresse pierre du coin, et elle est maintenant, c'est une chose actuelle, elle est, de par le Seigneur, merveilleuse. Non pas elle sera, mais elle est devenue cela, à partir de ce moment-là. Et cette pierre, celui qui va heurter contre elle va tomber, ou elle va écraser ceux sur lesquels elle tombera. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire, chers amis? C'est de toute beauté de voir qu'en présence d'un tableau aussi sombre de l'histoire de l'homme, mis à l'épreuve de toute manière, avec tous les résultats que nous venons d'essayer de montrer, Dieu, lui, il va faire des noces pour son fils. Il veut entourer son fils des joies les plus douces, les plus hautes qui soient. Et au milieu de ces joies, il veut lui donner une épouse. Il n'y a pas de tableau plus saisissant du dessein de Dieu à l'égard de son fils que de le présenter au centre de noces à laquelle il veut maintenant, chose admirable, convier ceux qui ont dans cet état, qui sont manifestés dans l'état du chapitre 21. On ne peut pas trouver grâce plus grande que Dieu invite à cette fête sans précédent et d'une beauté sans égale qu'il invite ceux qui sont manifestés dans ce chapitre 21. Telle est la grâce de Dieu. Nous n'allons pas insister pour le moment sur cet aspect de la question, mais nous aimons encore dire un mot sur le fait des noces. Et où trouvons-nous des noces dans l'Ancien Testament, notamment, des noces dans lesquelles le Seigneur occupe cette place entourée de toutes les joies que Dieu veut lui donner? Eh bien, il faut ouvrir pour cela, entre autres, le psaume 45, qui est un psaume nuptial. On a appelé ce psaume un psaume nuptial. Et le psalmiste qui a beaucoup souffert, image de résidu dans le psaume 44, qui a passé par la détresse, il a appris à chanter au sein des circonstances les plus dramatiques, les plus opprimantes, les plus décevantes qui soient dans le cours de l'histoire humaine. Au sein de la grande tribulation, il a appris un merveilleux cantique qu'il nous chante dans le 45, et il prend pour le chanter, remarquons bien, il le présente au chef de musique pour le chanter sur un air très particulier. On ne trouve que trois fois cet air, cette illustration de la musique. En musique, on ne la trouve que trois fois dans l'Ancien Testament. Psaume 45, psaume 69 et psaume 80, sur Chosanim. Et cela veut dire sur le mot de délice, c'est-à-dire le lys, le Seigneur en a parlé, cette fleur humble des champs, mais dont le Seigneur dit, c'est la plus belle de toutes. Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Eh bien, pour chanter la gloire du roi, au psaume 45, pour chanter ce qui sera demain, pour chanter ce qu'il a été hier, psaume 69, les souffrances qu'il a connues sur la croix, pour chanter ce qu'il est aujourd'hui, comme le bon berger de son peuple, psaume 80, eh bien, Dieu indique le mot de Chosanim, c'est-à-dire cette mélodie à nul autre pareil, réservée pour trois cas différents. Seigneur, hier, dans ce qu'il a souffert, psaume 69, ce qu'il sera demain lorsqu'il va être manifesté dans tous les éclats de sa gloire et ce qu'il est pour son peuple, c'est-à-dire pour chacun de nous. Encore un mot. Dans le psaume 45, la description du roi est faite à l'égard de son triomphe auquel est joint une reine. Et quand il en est question, verset 8, il y a un changement de sujet, « Tous tes vêtements sont mis à l'OSK ». Vous voyez, quand il va sortir pour entrer dans la jouissance du règne glorieux, Dieu a établi toutes choses sous ses pieds, au ciel comme sur la terre, « Tous ses vêtements sont à l'OSK », c'est-à-dire tous ses vêtements vont rappeler ce qu'il a été au jour de sa souffrance, ce qu'il a été au jour de sa mort, et ce qu'il est maintenant dans la gloire suprême dont Dieu l'a revêtu. La myrrhe, symbole de la souffrance qu'il a connue, l'aloès, la mort dans laquelle il est descendu, et la casse, c'est-à-dire la gloire dont Dieu l'a revêtu. On ne peut pas trouver tableau plus magnifique que celui-là. Et des filles de roi ont été parmi tes dames d'honneur. Qu'est-ce que cela veut dire? La reine est à ta droite par les dors d'Ophir. C'est un passage un peu difficile. Mais nous devons bien réfléchir à Bathsheba, l'épouse de David, qui est la mère de Salomon. Et il semble bien que l'Esprit de Dieu la mette en scène ici, la reine, c'est-à-dire l'épouse de David, la mère de Salomon, qui représente le peuple, qui représente Jérusalem. Elle est à sa droite, parée d'or d'Ophir. Le peuple maintenant restauré est vu dans la gloire que le Seigneur lui donne comme la reine parée d'or d'Ophir. Et les dames d'honneur qui la suivent ne font-elles pas penser aux nations qui sont déléguées là avec Jérusalem, autour de Jérusalem, pour venir apporter, selon les prophètes, le prophète Zacharie notamment, pour venir apporter leur tribu de louange et d'adoration au roi. Vous voyez quel beau sujet de psaume 45, sur le mot de Chosanim, le roi qui entre en scène dans sa puissance, victorieux avec son char qui écrase tous ses ennemis, et en même temps, la reine est à sa droite, place d'honneur qu'il donne à sa mère, et les filles de roi sont là accompagnant la reine pour former cet ensemble merveilleux, symbolique, sans doute prophétique, à l'égard de ce que nous allons connaître comme assistant dans cette glorieuse manifestation du Seigneur comme roi. Alors, dans notre chapitre, je dis ce dernier mot, le roi qui fait des noces pour son peuple est donc Dieu qui entre en scène après ce tableau si sombre, nous le répétons, du chapitre 21, il veut lui montrer ce que sont les pensées de son cœur au sujet de celui qui le remplit entièrement, celui à qui il a donné l'autorité sur toute chose.
Il a donc été question au chapitre 21 de la pierre que ceux qui bâtissaient, on vient de l'entendre, et nous aimons nous reporter à la première épître de Pierre qui nous montre l'appréciation de Dieu en contraste avec celle des hommes. Au chapitre 2 de la première épître de Pierre, ces épîtres de Pierre qui nous montrent quelle est l'échelle de valeur de Dieu, si l'on peut dire. Les choses qui sont précieuses aux yeux de Dieu sont à l'opposé de celles que les hommes estiment. L'homme estime l'or, l'argent, c'est répété plusieurs fois, alors que Dieu apprécie, met en évidence plusieurs choses qui sont précieuses. C'est un sujet sur lequel nous ne nous arrêterons pas. Mais la troisième mention d'une chose précieuse après l'épreuve et le sang de Christ au premier chapitre, c'est justement cette pierre au chapitre 2. Alors, en faisant référence à travers l'Écriture à la pierre, on en a une première mention dans les paroles de Jacob au sujet de Joseph, de lui et le berger, la pierre d'Israël. Ça reste très mystérieux, n'est-ce pas? Mais il faut avancer. Dans l'Ancien Testament, le psaume 110, le psaume Ésaïe 28, le psaume 118 plutôt, Ésaïe 28, et puis, alors ici, nous avons la citation que le Seigneur fait de ce passage, du psaume 118, et puis en 1 Pierre, alors nous avons quelques détails. Il nous est dit, à partir du verset 4, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon », ça c'est l'appréciation que nous devons avoir de la personne du Seigneur. Il est dit « vous approchant comme d'une pierre vivante ». Et là, nous avons un adjectif qui nous confirme que Pierre, qui a reçu cette révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, sur ce roc je bâtirai mon assemblée, n'est-ce pas, Matthieu 16. Alors, sur ce roc, sur le Fils du Dieu vivant, vont s'édifier des pierres vivantes aussi, qui vont constituer cet édifice spirituel qui est l'assemblée. Alors maintenant, les choses se mettent en place. Et il nous est dit quelque chose, que cette pierre est choisie et précieuse auprès de Dieu, fin du verset 4. Alors, dans notre passage, du verset 42 du chapitre 21 de Matthieu, il nous est dit, celle-ci est de par le Seigneur et est merveilleuse devant nos yeux. On voit que cette pierre est un prix infini pour Dieu. Alors c'est ce que nous avons entendu tout à l'heure, que le roi n'a rien de plus précieux que son fils. Il veut faire des noces pour son fils. Et en contraste, il y a alors l'appréciation des hommes. Quelle est cette appréciation? Eh bien, cette pierre a été rejetée par les hommes. Une pierre vivante rejetée par les hommes et choisie précieuse auprès de Dieu. Il y a donc un désaccord complet entre l'appréciation de Dieu au sujet de Christ et l'appréciation des hommes à son sujet, essentiellement du peuple qu'il a rejeté, qu'il a méprisé. Quel outrage à Dieu, c'est dire ce que tu apprécies, nous n'en voulons pas. Et il s'agit de la personne excellente et merveilleuse de son fils bien-aimé. Alors il est dit un petit peu plus loin, Dans 1 Pierre, c'est donc pour vous qui croyez qu'elle a ce prix, verset 7. Il y a donc la foi qui se met d'accord avec Dieu, qui apprécie ce que Dieu apprécie, qui estime celui qui est cher au cœur de Dieu. Christ est précieux pour Dieu, Christ est précieux pour le cœur des siens. C'est pour vous qui croyez qu'elle a ce prix. Voilà. L'appréciation de la personne du Seigneur Jésus que le croyant peut faire, celui qui croit. Et alors après, n'est-ce pas, de nouveau, pour les désobéissants, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée Elle est devenue la maîtresse pierre de coin et en même temps, elle est devenue la pierre d'achoppement, le rocher de chute. Ce sont ceux que nous voyons dans la parabole mépriser l'invitation, la rejeter. Sans doute, dans le cadre de la dispensation, c'est Israël, les premiers invités, les premiers concernés, ce sont eux qui méprisent l'invitation. Mais que de fois, cette parabole est une parabole analogue que l'on trouve au chapitre 14 de l'évangile de Luc, ont été employées pour l'évangile, pour nous montrer ce que les hommes font du Fils de Dieu. Et une mise en garde pour ne pas laisser ces excuses, ces motifs invoqués dans la parabole de Luc 14. Nous savons qu'il y a d'abord le champ, j'ai acheté un champ, à cause de cela je ne peux pas venir. J'ai acheté 5 paires de bœufs, il faut bien que je les essaye. J'ai épousé une femme, et par conséquent je ne peux pas venir. Tous ces motifs qui sont invoqués pour refuser l'invitation de Dieu. On voit que ces excuses ont un double effet. D'abord, de priver celui qui les invoque de la plus grande des bénédictions. C'est donc, ça a une conséquence personnelle catastrophique. Mais il y a un autre aspect, c'est l'outrage vis-à-vis de celui qui invite. L'outrage de celui qui veut associer ses invités à cette circonstance du Fils. Et on voit là, on mesure un peu ce que cela représente, pas pour le cœur de Dieu, que de voir cette invitation refusée. En appliquant cela à l'Évangile aujourd'hui, pensons pas que l'indifférence ou simplement le fait de se considérer comme trop occupé, comme ayant des circonstances de famille ou de travail qui nous empêchent de venir, puisse être simplement ou une privation personnelle ou quelque chose qui n'a pas grande importance aux yeux de Dieu. C'est un outrage, le plus grand des outrages, de refuser son Fils. Et alors, on comprend mieux le châtiment à durée éternelle qui en sera la conséquence. L'amour de Dieu est là, qui invite, qui vous offre aujourd'hui, peut-être qu'ici il y a encore quelqu'un qui n'a pas accepté cette invitation. Elle est renouvelée. Le Seigneur, à travers cette parabole, nous parle directement. Nous parle de celui qui aime voir sa maison remplie et qui aujourd'hui encore adresse à chacun, à chaque âme, cette invitation. Venez, tout est prêt. Les noces de mon Fils. Et nous savons par Apocalypse 19 que l'épouse, l'Église, elle n'est pas seulement invitée, mais elle est là, au centre de la fête, puisque les noces du Fils, les noces de l'agneau, sont là pour associer l'agneau à celle qui sera la femme de l'agneau, son épouse. Seigneur, nous garde qu'il y ait ici une seule personne qui refuse aujourd'hui l'invitation de sa grâce.
C'est le roi qui invite, et il invite pour son Fils, celui qui est le centre de ses affections, et qui doit être le centre des affections de ceux qui sont invités. Il fit des noces pour son Fils. C'est lui aussi qui a tout préparé. Dans la deuxième invitation, il dit « J'ai apprêté ». Voilà ce que j'ai fait. « J'ai apprêté mon dîner », c'est « mon dîner ». « Mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt ». Tout vient de lui. Il ne dit pas « Venez et puis apportez vos affaires, on va partager tout ça. » Non, tout est prêt, tout est de lui et tout est pour son Fils. Alors, dans les réponses qu'on a ici, tout à l'heure dans Luc 14, ils ont tous des excuses. On se trouve des excuses. Ici, au verset 3, il y a une volonté, la volonté de dire non. Ils ne voulurent pas venir. On dit non. Non, ça ne nous intéresse pas. Ce qui concerne ton fils, ça ne nous intéresse pas. Ce repas que tu as préparé, non, ça n'est pas pour moi. Et pourtant, on est invité. Non. Deuxième, c'est au verset 5, ils manifestent l'indifférence. On les invite, ils tournent le dos, ils s'en vont, et chacun, n'en ayant pas tenu compte, s'en allèrent l'un à son trafic, l'autre à son champ, un autre à son trafic. L'indifférence. Et puis, au verset 6, il y a une étape supplémentaire qui est franchie, il y a l'hostilité. Alors, les autres s'étant saisis de ces esclaves, les outragèrent et les tuèrent. On dit non, on peut être indifférent et on peut être franchement hostile. Quand il y a cette invitation qui est faite, il y a un moment où l'invitation est faite, il y a un moment où nous sommes appelés, si on prend cela pour nous, nous sommes appelés à répondre. Et ici, il est bien clair que la plupart d'entre nous, nous avons souvent entendu parler de l'Évangile. Je pense que la plupart des enfants, nous ici, ont déjà entendu à l'école du dimanche ou dans la maison, on a lu ces passages et on connaît tout ça par cœur. Alors quelle sera la réponse ? Aujourd'hui, ça sera peut-être dire non. Demain, le cœur s'étant endurci, ça sera peut-être de l'indifférence, on est imperméable. Et puis après-demain, on est resté imperméable et on devient franchement hostile. Et combien ça serait terrible si quelqu'un suivait ici un tel chemin.
À propos de cette volonté exprimée, décidée, dont parle notre frère maintenant, les premiers invités ne voulurent pas venir. Il n'est pas seulement dit qu'ils ont décliné l'invitation ou qu'ils ne sont pas venus, qu'ils n'ont pas répondu, mais ils ne voulurent pas. Il y avait donc une volonté, là, décidée de ne pas répondre à l'invitation du roi. À cet égard, nous avons à cœur de rappeler trois passages et dans le sens de la proclamation de l'Évangile. Dans le chapitre 5 de l'Évangile selon Jean, le Seigneur s'adresse aux Juifs, ou plutôt les Juifs, lors de la fête de la dédicace, les Juifs questionnent le Seigneur. Et il est dit ceci, c'est au chapitre 10 de cet évangile selon Jean, il pose une question, « Si toi tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Alors le Seigneur leur dit, « Il y a 3 ans et demi que je suis là, au milieu de vous, avec le chapitre 10 selon Jean, nous sommes à la fin du ministère du Seigneur, je vous l'ai dit, mais vous, vous ne croyez pas. » Et le Seigneur le dit encore au verset 26, « Quant à ses œuvres, mais vous, vous ne croyez pas et vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. » Un passage de l'Ancien Testament du livre du prophète Jérémie où il semble que on devine quelque chose d'une volonté arrêtée de ne pas recevoir les invitations de Dieu. Jérémie 6. En Jérémie 6, il nous est dit ceci. Il y a là un appel de la part de l'Éternel au verset 16. « Tenez-vous sur les chemins, regardez, enquérez-vous touchant les sentiers anciens, quelle est la bonne voie, et marchez-y, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Mais ils ont dit « Nous n'y marcherons pas. » Il y a là une volonté exprimée. Dieu a beau nous dire, venez, enquérez-vous touchant les sentiers anciens, regardez quelle est la bonne voie, marchez-y. Non, nous n'y marcherons pas. Alors, un troisième et dernier passage dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 30e, au verset 15 d'Ésaïe 30, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en revenant et en vous tenant en repos que vous serez sauvés. Dans la tranquillité et dans la confiance sera votre force, mais vous ne le voulez pas. Alors là, nous avons vraiment le verbe vouloir, l'expression d'une volonté décidée. Quelle parole plus tendre et plus douce trouvons-nous que celle de Dieu lui-même quand il parle de la tranquillité, de la confiance, et en revenant, en vous tenant en repos, que vous serez sauvés. Dans la tranquillité, dans la confiance sera votre force. Mais vous ne le voulez pas. J'ai beau vous inviter, mais vous ne voulez pas venir, vous ne voulez pas réaliser cette tranquillité, cette force qu'il y a dans la tranquillité et dans la confiance. Eh bien, chers amis, combien il est utile de nous souvenir, pas seulement de la parole de Dieu d'une façon générale, mais des termes de la parole. Et celui-ci, que notre frère a souligné maintenant, nous paraît être d'une importance capitale. Et cela, dans le sens de l'invitation de la grâce de Dieu, dans le sens des appels de l'Évangile. Une première invitation, un premier appel, et ils ne voulurent pas venir. Pas seulement, ils ne sont pas venus. Ils ont passé à côté de cette invitation. Ils n'ont manifesté aucune espèce d'intérêt pour cette invitation. Mais la parole souligne, ils ne voulurent pas venir. Et cela est d'une gravité exceptionnelle. Ne pas vouloir, on peut ne pas venir au Seigneur, c'est déjà très grave, mais ne pas vouloir, être décidé de ne pas répondre aux appels de la grâce de Dieu, cela est décidément très grave et il n'y a rien de plus grave.
Il envoya ses esclaves pour ceux qui étaient conviés, ceux qui étaient invités aux noces, et ils ne voulurent pas venir. On peut dire que les serviteurs du Seigneur ont reçu deux missions. Nous avons ici la première mission, les serviteurs du Seigneur pendant que le Seigneur est là. Et puis, quand il est dit « tout est prêt », c'est parce que l'œuvre du Seigneur est accomplie et on peut dire que ce sont les serviteurs du Seigneur après sa mort. Déjà pendant que le Seigneur était ici-bas, il avait ses serviteurs qui invitaient, qui conviaient, ils ne voulurent pas venir. Et cela qu'on a fait la souligner est rappelé dans Jean 5 avec la même expression dans la bouche du Seigneur. Sondez les Écritures car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi et celui qui sonde les cœurs et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et quand alors nous avons les autres serviteurs que le Seigneur a envoyés et qui ont aussi invité, venez car déjà tout est prêt. Pourquoi tout était-il prêt? Parce que l'œuvre était accomplie. Parce que celui qui avait été rejeté comme roi et qui, après l'enlèvement de l'Église, sera reconnu comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, car il faut qu'il règne, il faut que Dieu va mettre tout en œuvre pour donner l'héritage à son héritier, eh bien, qu'ont fait aussi ceux-là, eh bien, ils ont trouvé des excuses. Et en plus de cela, comme cela a été souligné, on est indifférent, et puis on devient vraiment opposé. Et nous lisons au début du livre des Actes, ceux qui étaient contre Jésus étaient aussi contre les apôtres. Ils ont été battus, ils ont été mis en prison, ils ne cherchaient qu'une chose, c'est de continuer sur les traces de ceux qui, pendant que le Seigneur Jésus était avec eux, ils voulaient le faire mourir. Tout au long de l'évangile de Jean, nous trouvons cette expression, ils cherchaient à le faire mourir, ils cherchaient à le faire mourir. Ils ont même cherché à faire mourir Lazare, celui que Jésus avait ressuscité. Alors, les croyants sont des témoins gênants auprès de ceux qui ne veulent pas venir. Mais quel appel, chère âme, quel appel nous avons ici de la part de Dieu. Dieu qui veut faire des noces pour son Fils. Le Seigneur Jésus n'est pas le roi de l'assemblée, mais nous devons être comptés parmi ceux qui aiment son apparition. Nous portons son opprobre ici-bas. Est-ce que nous désirons le jour, voir le jour où celui qui a été méprisé sera enfin glorifié? Il est là ce jour-là. C'est Dieu qui fait des noces pour son Fils.
Et à ce fils, il a donné une épouse. Vous en faites partie, chère âme. Faites-vous partie de l'épouse de Christ, s'il venait ce soir. Êtes-vous compté parmi ceux qui ont accepté l'invitation, ou êtes-vous encore parmi ceux qui ont beaucoup d'excuses à fournir? Parfois des choses légitimes, nous le trouvons dans l'évangile de Luc. Le commerce, le mariage même. Et peut-être pourrions-nous en faire une application, quoi que ce soit en dehors du sujet, lorsque le Seigneur, lui, nous invite. Quand il veut parler à notre cœur, quand il veut nous consoler, quand il désire que par lui nous nous adressions au Père pour le prier, il nous invite. Nous ne sommes pas chez nous dans l'assemblée, nous sommes chez lui. Est-ce que nous répondons à son invitation? Refuserions-nous avec beaucoup d'excuses de passer une heure avec lui sur la terre?
Un passage dans l'Ancien Testament que nous pouvons mettre en parallèle avec le passage qui nous occupe dans Matthieu 22, dans Sophonie, au chapitre 1er, verset 7, milieu du verset, « Car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé un sacrifice, il a sanctifié ses conviés. » Quel sacrifice, mes amis! Dieu a consenti, nous a donné le don même de son cher Fils. Christ donné pour nous, donné pour notre salut. Et pouvons-nous représenter Dieu comme un juge sévère, se tenant avec une épée sur l'homme toujours prêt à l'abattre? C'est une idée très fausse de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce et d'amour. Il poursuit, il répète ses appels. Et nous voyons ici ce que le peuple juif en général a fait des appels de la grâce. Nous adressons ici, comme on l'a déjà fait, à nos jeunes. Jour de la grâce, nous en avons tous bien conscience. Approche de son terme, soleil de la grâce divine qui brille depuis 20 siècles, bientôt baisse rapidement à l'horizon. Et mes amis, si nous ne répondons pas à l'appel du Sauveur, nous serons perdus, éternellement perdus. Jugement de Dieu et son œuvre étrange et son travail inaccoutumé. Mais, mes amis, méprisez les richesses de la grâce de Dieu, cette fête éternelle que Dieu nous a préparée dans le ciel, cette félicité que Dieu offre à quiconque se repent et croit. Quelle offense, quelle offense à ce Dieu d'amour. Ah, cela s'adresse à chacun de ceux qui, ici, peut-être ne sont pas sûrs. Et la parole de Dieu est claire. Un regard sur la croix, déclaration de la parole de Dieu. En vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Nous en avons déjà la jouissance, la possession. Oh, qu'aucun de ceux qui sont ici, jeunes et plus âgés, puisse s'exposer à ce jugement qui va venir, ce jugement éternel. a le regret d'avoir laissé passer le temps, le regret d'avoir méprisé la grâce. Ce ver rongeur, que connaîtront ceux qui auront fait ainsi? J'aurais pu, mais je n'ai pas voulu. Eh bien, cette grâce est encore proclamée aujourd'hui. Dieu fait grâce, Dieu invite. Nous pouvons nous tenir à la porte et dire à ceux qui nous entourent, entrez, venez aux noces. Il a sanctifié les conviés. Mes amis, c'est lui qui donne la robe de noces. Nous l'avons dans cette parabole. C'est lui qui l'a fournie. Voyons la fête que le Père fait à son Fils qui l'avait déshonoré. Image, tout le ciel se dérange. Une fête est faite en son honneur. Oh, la grâce, mes amis. Cette grâce qui est la vraie grâce de Dieu, celle dont nous avons la jouissance, celle qui s'adresse à chacun de ceux qui encore n'ont pas répondu. Le Seigneur vous invite, venez, entrez aux noces, venez car déjà tout est prêt.
Le roi continue à adresser des invitations. Il nous est donc parlé de la destruction de Jérusalem en l'an 70. Alors il dit à ses esclaves, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins et autant de gens que vous trouverez, conviez-les aux noces. Il y a, en effet, comme le dit ce cantique, il y a encore de la place, c'est-à-dire qu'il y a de la place pour quiconque dans une telle salle, à un tel repas, il y a de la place pour quiconque veut venir. Il y a de la place pour chacun, comme il est dit donc ici. Allez donc dans les carrefours des chemins, autant de gens que vous trouverez, conviez-les aux noces. Et ces esclaves-là, étant sortis, s'en allèrent par les chemins, ils assemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant mauvais que bons. Selon l'appréciation des hommes, il y a des hommes qui sont mauvais, il y a des hommes qui sont de tristes personnages, cela n'est que trop vrai, mais il y en a aussi des bons, de ces personnes qu'on en appelle des gens de bien, qui font de belles choses, qui font de bonnes œuvres, tant mauvais que bons. Les mauvais étaient aussi invités, pas seulement les bons. La grâce de Dieu invite quiconque parce que l'on soit estimé être un brave homme ou être un méchant homme, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Et cela met les appréciations des enfants des hommes à leur juste place. Chacun, même celui qui se croirait être un très grand homme et digne d'un grand honneur, chacun a besoin de la grâce de Dieu. Dans les trois bénédictions que nous avons en Hébreu 9, qui proviennent de l'effusion du sang de Christ, il y a donc trois bénédictions. La première, c'est une rédemption éternelle qui a été obtenue pour nous par le Seigneur Jésus. La deuxième, c'est la purification de la conscience. Et la troisième, c'est l'annonce d'un héritage éternel qui a été promis. Quant à cette deuxième bénédiction, la purification de la conscience par le sang de Christ, qu'a-t-il dit ? Si le sang de victime pouvait pour un petit moment purifier des pécheurs au jour d'Israël par divers sacrifices, combien plus le sang du Christ purifiera-t-il vos consciences de quoi, chers amis? Il est dit des mauvaises œuvres, non. Il est dit des œuvres mortes. Il est évident que le sang de Christ purifie la conscience des mauvaises œuvres. Mais Hébreux 9 ne dit pas cela. Hébreux 9 nous dit que le sang de Christ purifie la conscience des œuvres mortes. Et cela est extrêmement humiliant pour l'homme, et spécialement pour l'homme qui croit être un grand homme faisant de grandes choses, de belles et de bonnes choses. La pensée de l'auteur de l'Épître ici est que celui qui fait de bonnes œuvres, sans avoir la vie de Dieu, ces bonnes œuvres sont des œuvres mortes. Ce sont des œuvres mortes, ce ne sont pas des mauvaises œuvres. Ça peut être très bien des bonnes œuvres, mais aux yeux de Dieu, elles sont considérées comme étant mortes parce qu'elles sont accomplies par des hommes qui n'ont pas la vie de Dieu. Et cela est bien propre à humilier l'homme dans son fol orgueil en pensant aux grandes et belles choses qu'il peut faire. Il n'a pas la vie de Dieu, ces bonnes choses que tu estimes être très bien, ces bonnes choses sont considérées par moi, dit Dieu, comme étant mortes. Eh bien, c'est de ces œuvres-là que le sang de Christ purifie la conscience. Il y avait donc de la place, chacun était invité, tant mauvais que bon. Et la salle des noces fut remplie de gens qui étaient à table. Mais voici que dans cette salle, qui est vaste, elle doit être vaste pour pouvoir recevoir quiconque, des gens qui sont mauvais comme des gens qui sont bons, cette salle peut recevoir quiconque, de telle sorte qu'on peut y pénétrer, mais sans avoir la pensée de Dieu pour soi. C'est pour cela que nous avons ensuite l'exemple de l'homme entré sans robe de noces. Le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut là un homme qui n'était pas vêtu d'une robe de noces. Il lui dit, « Ami, comment es-tu entré ici sans avoir une robe de noces ?» Et il eut la bouche fermée. Ah, chers amis, pour avoir l'approbation de Dieu, pour avoir de sa part les bénédictions infinie, présente et éternelle, à commencer par le salut de notre âme, il faut être revêtu. Il faut être revêtu et revêtu convenablement, c'est-à-dire selon la pensée de Dieu. On peut venir soi-même avec une robe de noces, ça peut peut-être nous donner l'apparence d'être un peu comme tous les autres conviés, mais voici celui qui entre dans cette salle et qui observe toutes choses à lui. Cela n'échappe pas. Comment es-tu entré ici sans avoir une robe de noces? La robe de noces est là, cette justice de Dieu que nous avons dans la personne de Christ et dont nous avons parlé ce matin. La parfaite justice de Dieu que Dieu veut bien nous imputer à cause de Christ lui-même. En effet, 2 Corinthiens 5 se termine par cette pensée d'extrême importance. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Voilà la robe dont nous devons être vêtus pour avoir l'approbation de Dieu et pour recevoir de sa part les bénédictions dont il nous assure, à commencer par le salut de notre âme. Christ, voilà le vêtement qui nous revêtut la justice de Dieu. Voilà la justice de Dieu, Christ lui-même. Voilà ce dont nous devons être vêtus. Non pas par une robe que nous avons tissée nous-mêmes. Nous avons accompli des bonnes œuvres, beaucoup de bonnes œuvres. Nous pensons avoir fait un vêtement vraiment digne de Dieu et que Dieu va accepter. Ça n'est pas une robe de noces. Dieu ne peut pas l'accepter. Comment es-tu entré ici sans avoir la robe que j'exige, que je veux? Et en fait, si l'on pense aux coutumes orientales des jours d'autrefois, il semble que c'était celui qui invitait, qui en même temps fournissait la robe, le vêtement adéquat. Alors, venir ainsi, avec une robe pareille, c'est mépriser vraiment l'habit que Dieu veut nous donner et nous donne si nous venons à lui. Et c'est grave de mépriser ainsi cette robe, la robe selon la pensée de Dieu, la justice même de Dieu, la personne de Christ. C'est très grave. On entre, on prend place en vertu de certains mérites personnels, d'une certaine moralité, de certaines bonnes œuvres que nous avons accomplies, et nous pensons que nous avons droit à prendre place dans cette salle. Ah, chers amis, c'est une très grave erreur. Elle est grave parce qu'elle représente en même temps le mépris du vêtement dont Dieu veut revêtir quiconque vient à lui, c'est-à-dire communique, imputé à cette âme qui vient repentant dans les sentiments qui conviennent à Dieu, qui veut lui donner cette robe, c'est-à-dire sa justice même, la justice qui est finalement la personne de Christ. Il n'a pas connu le péché et il a été fait péché, notre Seigneur, afin que nous devinssions, nous pécheurs, justice de Dieu en lui.
Faire une remarque sur un détail, sans revenir en arrière. Les conviés, c'est toute la même catégorie pour Dieu. Il y a les uns et il y a les autres. Mais tous refusent de façon différente, mais tous refusent la grâce de Dieu. Et leur état se termine par la phrase du verset 6 à la fin. Et s'étant saisi de ses esclaves, ils les outragèrent et les tuèrent. Les conviés sont désignés de façon très claire dans le livre des Actes, et on ne peut pas se tromper. Pierre dira dans le second discours qu'il prononce à Jérusalem, « Car à vous, juifs, et la promesse est à vos enfants, et à tous ceux qui sont loin. » Plus tard, tous ceux qui sont loin désignent les nations. « Mais à vous-même, juifs, et à vos enfants. » Dans le chapitre 3, pour voir l'harmonie des Écritures, dans le chapitre 3, nous avons cette expression à la fin du chapitre. « À vous, premièrement, ceux qui étaient conviés aux noces, les uns et les autres. » Donc, « à vous, à vos enfants, et à vous, premièrement, Dieu ayant suscité son serviteur, l'envoyé, pour vous bénir. » Donc, vous voyez, l'harmonie des Écritures, les conviés, les uns et les autres, à vous, il était donné. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont jeté les envoyés de Dieu, ils les ont outragés et ils les ont tués. Nous avons ici, en fait, la mort d'Étienne. Et Étienne peut être introduit dans le livre des Actes, c'est encore un détail intéressant, dans le chapitre 19. Vous allez voir qu'il y a une suite bien établie, rationnelle, dans ce que nous disons. Or, au verset 14 du chapitre 19 de Luc, pour ne pas lire tout le contexte, « Or, ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent après lui. » Donc, ce qui précède, c'est que le roi a établi dans l'autorité un homme noble, il est allé dans un pays éloigné pour recevoir une couronne et revenir. Donc, l'élévation du Seigneur à la droite de Dieu. Alors, or ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent après lui, une ambassade disant « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » Étienne a donc été comparé à cette ambassade qui est allée après le Seigneur, cette ambassade que Dieu avait envoyée pour prêcher l'Évangile de façon extraordinairement puissante. Il est celui qui est l'ambassade qui va après le Seigneur. Je vois le Fils de l'homme debout, il va dire à Dieu, eh bien, c'est fini, ils ne veulent pas de ton Fils, ils ne veulent pas accepter cette autorité, ce royaume sur eux. Donc, les uns et les autres, ils ont refusé la grâce, ils ont outragé et tué les serviteurs, et Étienne en particulier, qui est l'ambassade, qui est allé au ciel pour dire, eh bien, c'est terminé maintenant. Dieu doit cesser d'attendre que ce peuple vienne à lui. Il faut prendre d'autres dispositions. Et quelles sont-elles? Alors nous disons, le Seigneur, le roi, l'ayant entendu en fut irrité, ayant envoyé ses troupes. Remarquons que les nations sont comparées à des troupes ici. La nation romaine, notamment, qui est en scène, ce sont les troupes de Dieu. Et un petit détail en passant, il ne faut pas que nous pensions un instant que les nations sont libres de leurs mouvements, qu'elles obtiennent qu'elles atteignent tel but, qu'elles se sont fixées à elles-mêmes selon leur sagacité, leur combinaison politique ou la force de leurs armées. Tout cela, c'est un raisonnement humain. C'est Dieu qui est à la tête de toutes les nations, qui les gouverne selon son gouvernement. Et nous allons seulement lire un verset pour montrer que c'est Dieu qui gouverne ces nations, justement, dans le prophète Zacharie, où il est question des quatre empires, des nations qui devaient se succéder sur la scène. Nous lisons dans le prophète Zacharie, et ce verset illustre beaucoup d'autres, « Seigneur a envoyé Nebuchadnezzar, il l'appelle son serviteur, ce grand monarque, cet homme qui a occupé une position d'élévation nulle autre pareille, il n'était après tout que le serviteur de Dieu pour accomplir ses desseins. Et dans le prophète Zacharie, le verset que nous voulions citer, c'est celui-ci. Dans le chapitre 1er, l'ange parle avec le prophète au verset 9 et suivant, et l'homme qui se tenait parmi les myrtes va répondre. C'est le Seigneur qui se tient parmi les myrtes. C'est un tableau merveilleux de la gloire du Seigneur qui sera vue demain. Mais il est encore dans le fond. Il n'est pas encore manifesté sur l'avant-scène. Et l'homme qui se tenait parmi les myrtes répondit et dit, ce sont ceux, en parlant des cavaliers, image des empires, dans leur activité, le cheval est celui qui le mène, parle de ce qui est haut élevé, de ce qui gouverne parmi les hommes. Et l'homme qui se tenait parmi les myrtes répondit et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour se promener sur la terre. Ces grands empires dont les armées ont accompli des choses extraordinaires, en fait, n'étaient que des serviteurs. Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour se promener sur la terre. Et tout ce qu'ils peuvent faire, se promener sur la terre, bien que on se souvient des armées perses, de l'histoire, des armées d'Alexandre le Grand et de l'armée romaine, quelles armées invincibles c'étaient. Il semble que rien ne pouvait leur résister. Mais Dieu les avait envoyés pour se promener sur la terre. Eh bien, Dieu a employé ses troupes, les troupes romaines ici, 40 ans plus tard environ, après le meurtre d'Étienne, pour faire le sac de Jérusalem et faire périr ces meurtriers-là, comme le Seigneur l'avait dit dans une parabole précédente. On sait, pour petit détail en passant, que beaucoup d'amis ont lu dans l'histoire de l'Église ou de l'Assemblée notamment, que plus d'un million de Juifs ont perdu la vie à Jérusalem. C'était donc à la fête de Pâques, c'est-à-dire la fête de Pentecôte, qui a mené beaucoup de monde pour célébrer la fête, et il y a plus d'un million de Juifs qui ont perdu la vie. Un grand nombre sont partis en captivité à Alexandrie, notamment en Égypte, et on vendait là, sur ce grand marché d'esclaves, les jeunes gens que Titus avait fait prisonniers, et on vendait 30 esclaves à la fois, pour un denier. Le maître avait été vendu, lui, pour 30 deniers, et on vendait 30 esclaves, on offrait 30 jeunes gens, bien avenants, pour un denier. Et l'histoire nous dit qu'il n'y avait pas d'acheteurs. Il y en avait tellement, le marché était tellement saturé qu'on ne les achetait plus. C'est ce que Moïse avait dit, on veut le lire dans le Deutéronome, si on avait le temps, on verrait que Dieu avait prévu tout cela, et que vous retournerez en Égypte, et il n'y aura pas d'acheteurs pour vous acheter comme esclaves. Le roi, irrité, envoya ses troupes. Ce n'est pas quelque chose de banal, chers amis, quand le roi est irrité et qu'il envoie ses troupes. Il en sera ainsi demain, lorsque Dieu va mobiliser les forces célestes pour régler toutes les questions de la terre, afin d'établir le règne glorieux pour 1000 ans de son Fils.
Pendant que nous sommes dans Zacharie, voyons remarquez au chapitre 3 ce qui nous est dit de Josué qui était vêtu de vêtements sales. Il nous est dit au verset 4, et l'ange prit la parole et parla à ceux qui se tenaient devant lui, disant, ôtez de dessus lui les vêtements sales. Et il lui dit, regarde, j'ai fait passer de dessus toi ton iniquité et je te revais d'habits de fête. On pense à cette robe de noces, n'est-ce pas? L'homme n'ayant rien à faire valoir quant à sa propre justice, mais Dieu le revêt. Ici, il s'agissait du grand sacrificateur, même lui, revêtu de vêtements sales. Nous avons la doctrine de cela dans l'Épître aux Romains, nous le savons bien. Je veux simplement rappeler que les trois premiers chapitres nous présentent l'homme dans son état naturel, sous divers vêtements, on pourrait dire, le païen, le philosophe, le juif. Et puis voilà la conclusion tragique, pas de différence. Chapitre 3, verset 23. Tous ont péché, n'atteignent pas la gloire de Dieu, donc ne peuvent pas entrer. Malgré la volonté de Dieu, volonté d'amour, il ne peut pas faire entrer ces hommes tels qu'ils sont, mais il fournit lui-même ce qu'il faut pour entrer. Et alors c'est la même phrase, c'est très beau, pas de différence, tous sont péchés et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Alors est-ce le désespoir? Non, la phrase n'est pas finie. Étant justifié gratuitement par sa grâce. C'est même très beau de voir que dit justifié gratuitement par sa grâce. C'est ce qu'on appellerait un pléonasme. Si c'est gratuit, c'est la grâce. Si c'est la grâce, c'est gratuit, c'est la même racine, c'est la même chose. Mais Dieu confirme ce qu'il dit. Voilà, c'est sa grâce qui recouvre, et recouvre de quoi? Eh bien, de la justice, justifiée gratuitement par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Il nous confère cette justice de Christ. Il nous donne ce vêtement qui recouvre toute notre misère, et en vertu duquel nous pouvons pénétrer dans la salle des noces selon les perfections de celui qui nous invite.
Dans 1 Corinthiens 6, nous avons une liste de 1 Corinthiens 6 qu'on a appelé les 10 lépreux, des caractères de quelques-uns des Corinthiens. Il est dit, ne vous y trompez pas, ni fornicateur, idolâtre, il y a 10 caractères horribles qui sont présentés là. Et au verset 11, et quelques-uns de vous, vous étiez tels, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Il n'y a que lui qui pouvait faire cela. Quelques-uns des Corinthiens étaient comme cela, mais ceux qui n'étaient pas comme eux, qui étaient peut-être des bons, peut-être pas des mauvais aux yeux des hommes, ils avaient besoin aussi d'être sanctifiés, d'être lavés, d'être sanctifiés, d'être justifiés. Nous avons tous besoin de cela. Dans notre parabole, il y a aussi une chose merveilleuse, c'est la patience de Dieu. Dieu a appelé une fois, il a appelé une deuxième fois, et la noce était toujours prête, il n'y avait pas de conviés qui étaient rentrés, et il va dire, il faut encore, il faut que la salle de noces soit pleine. Et il dit à ses esclaves, conviez-les aux noces, c'est prêt, conviez-les. Dans l'évangile selon Luc, il n'est pas question des esclaves, il est question d'un esclave. Et à cet esclave, il est dit, contrains-les d'entrer, oblige-les à rentrer. Et l'esclave dont il est question dans l'évangile selon Luc nous parle du Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut contraindre quelqu'un d'entrer. Et nous qui sommes alors des serviteurs, des esclaves, qui sommes chargés maintenant peut-être d'aller le long des haies pour inviter. On invite, on convie, et c'est le Saint-Esprit qui convainc, qui contraint d'entrer. Et il y a une chose aussi, quand on lit le livre des Actes, qui nous parle aussi de la patience de Dieu, de la manière dont Dieu a agi vis-à-vis du peuple. Étienne, on l'a rappelé, a été rejeté, tué, cet ambassadeur a été outragé et tué. Mais les années sont passées encore. On l'a rappelé tout à l'heure, notre frère l'a rappelé, avant que Titus arrive et détruise Jérusalem. Et le message a été continué aux Juifs, les nations aussi, mais aussi aux Juifs. Et dans le livre des Actes, au chapitre 13, au début dans le premier voyage de Paul, il y a ce que Paul et Barnabas disent, au chapitre 13 des Actes, au verset 46. Mais c'était à vous, acte 13, verset 46, c'était à vous premièrement qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Mais puisque vous la rejetez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les nations. Car le Seigneur nous a commandé ainsi, je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois en salut jusqu'au bout de la terre. Ici, dans notre parabole, le maître dit, les invités n'en étaient pas dignes. En fait, ce sont les invités qui se sont dit qu'ils étaient indignes. Vous vous jugez vous-même indigne. Vous n'avez pas accepté parce que vous-même vous êtes jugé indigne. Et ensuite, on peut dire aussi que le livre des Actes se termine par comme un dernier appel encore au peuple. Et quand Paul est là à Rome, il, au chapitre 28 des Actes, à partir du verset 23, il parle aux Juifs et il les persuade. Acte 28, verset 23. Et il y a encore comme un dernier appel, verset 25, l'Esprit Saint a bien parlé à nos pères. Et il y a ce rappel, cette citation d'Ésaïe 6, que nous avons, par exemple, nous avons vu l'année dernière dans Matthieu 13. Et au verset 28, « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux nations, et eux écouteront. » La page se tourne, et ça sera trop tard pour les Juifs. Mais pour nous aussi, il y a des pages qui se tournent. Il y aura un moment où ce sera trop tard. Et peut-être que dans celui qui était là, venu avec ses propres habits dans la maison du roi, il s'était peut-être fait illusion lui-même, il avait peut-être fait illusion aux autres. Mais quand le roi rentre dans la salle du festin, rien n'échappe à son regard. Et rien ne peut échapper au regard de notre Dieu. Il sait ici, aujourd'hui, quel est celui qui n'est pas revêtu. Il sait ici, aujourd'hui, quel est celui qui dit qu'il croit au Seigneur, qu'il est au Seigneur, et qui dans son cœur ne l'est pas. Il sait cela. Et encore aujourd'hui, pour celui-là, il le convie aux noces de son Fils.
Nous arrivons au terme de notre réunion. En terminant cette réunion, nous aimerions simplement rappeler, puisque notre frère a attiré notre attention sur l'important chapitre 3 de l'Épître aux Romains, qui est un réquisitoire absolu. Ah, il faudrait pas que quelqu'un parmi nous pense qu'il est un brave homme, parce qu'il se conduit bien, parce qu'il accomplit des bonnes œuvres, qu'ainsi il mérite quelque chose de la grâce de Dieu, qu'il mérite quelque chose pour son salut. Romains 3 est absolument catégorique. Et ce réquisitoire est basé, fondé sur 7 déclarations de l'Ancien Testament. Nous ne pouvons pas entrer dans le détail maintenant, c'est l'heure, et puis d'un autre côté, nous sortirions du sujet. Et alors, en présence de cet état moral irrémédiable de l'homme, il y a ce que la grâce de Dieu fait, elle justifie. C'est un des grands sujets de l'Épître aux Romains, tout le monde le sait. La grâce de Dieu nous justifie. Elle peut faire la grâce de Dieu d'un homme qui est un pécheur, et même mort dans ses fautes et dans ses péchés, elle peut en faire un juste. Ah, combien facilement nous pensons que nous sommes des justes, parce que nous avons une moralité sans reproche, etc. C'est pas du tout la pensée de Dieu. Nous devons reconnaître que véritablement nous sommes absolument pécheurs et que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour être justifiés, pour devenir ses justes selon la pensée de Dieu. Tout mérite revient à Dieu, aucun mérite de notre part. Je suis un juge, je le reconnais, c'est la parole de Dieu qui dit, mais c'est à Dieu seul que je dois, personnellement je n'y suis pour rien. Alors dans ces chapitres 3 et 4, 4 et 5 de l'Épître aux Romains, nous avons les 4 moyens obligatoires par lesquels un homme pécheur qui vient à Dieu est justifié. Le premier moyen vient d'être rappelé, c'est la grâce de Dieu. En Romains 3, il nous est dit ceci, il n'y a pas de différence, tous sont péchés et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce. Par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, étant justifié par sa grâce, voilà ce qui fait d'un pécheur un juste, c'est la grâce de Dieu. Premier moyen dans la main de Dieu pour justifier l'homme pécheur. Deuxième, la résurrection du Seigneur Jésus. Fin du chapitre 4e, il est donc parlé d'Abraham, il est parlé d'Isaac. Et alors au verset 23, ce n'est pas pour lui seul qu'il a été écrit que cela lui a été compté, mais aussi pour nous, à qui il sera compté, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes, a été ressuscité pour notre justification. Troisième moyen, la foi. Voilà ce que Dieu demande de nous, la foi, mais que lisons-nous dans l'Épître aux Hébreux ? Vous êtes sauvés par la grâce, cela ne vient pas de vous. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, c'est le don de Dieu. Eh bien, le début du chapitre 5 nous dit, « Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et enfin, le quatrième moyen, obligatoire pour que nous soyons justifiés. Chapitre 5, verset 9. Beaucoup plus tôt donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Ayant été maintenant justifiés par son sang. Chers amis, nous voulons, à l'issue de cette réunion, nous souvenir de ces vérités véritablement fondamentales. Il n'y en a pas de plus fondamentales. Les vérités fondamentales concernant l'attitude de Dieu en grâce à l'égard de l'homme pécheur. Et que faut-il pour que nous soyons justifiés? Y a-t-il quelqu'un dans cette nombreuse assistance qui ne connaît vraiment pas le Seigneur Jésus pour son Sauveur, qui ne sait pas ce que c'est que la justification, ce sujet qui a été en fait le substratum et le summum de tout l'enseignement d'un réformateur comme Martin Luther? C'est à cet enseignement-là que Martin Luther s'est attaché. Ça a été une véritable révélation qui lui a été faite, justifié par la grâce de Dieu, justifié par la foi, et non pas justifié par des œuvres. C'était une révélation au jour où Luther a mis en évidence de telles vérités. Eh bien, rappelons-nous de ça, souvenons-nous de ces quatre moyens, la grâce de Dieu, justifié parfaitement par la grâce, la résurrection du Seigneur. Si le Seigneur Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas de justification possible pour nous. Et troisièmement, justifié par la foi. Dieu demande simplement ceci de nous tous. Il demande ceci de nous qui ne croyons pas encore, simplement que véritablement nous croyons. Un jour, au Seigneur Jésus, au début de son ministère, on lui a posé la question, les Juifs lui ont posé la question, « Quelle œuvre ferons-nous pour plaire à Dieu ?»« Ah, quelle œuvre ferons-nous pour plaire à Dieu ?» Que dit le Seigneur ?« C'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez au nom de celui qui l'a envoyé. » Voilà l'œuvre, une œuvre. L'œuvre qui est demandée, c'est la foi, c'est de croire. « C'est ici l'œuvre que vous ferez, vous croirez. » En celui, croyez en celui que Dieu a envoyé. Et quatrièmement, alors, le sang de Christ. Le sang de Christ. Ce sont là, chers amis, les ressources de notre Dieu par lesquelles nous sommes justifiés et pour lesquelles nous rendons grâce et nous rendons grâce à jamais.